Hello, moi c'est Doris. Bienvenue sur mon podcast Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est le podcast où je vais à la rencontre des personnes qui ont pris un virage à 180 ou qui ont un parcours de vie atypique et qui ont décidé d'entreprendre. Pour ce sixième épisode, c'est Elena qui vous partage son histoire. Elena a grandi sur la petite île de Crète, en Grèce, et a pas mal voyagé. Après des études littéraires, de théâtre et de philo en Angleterre et en France, elle est devenue prof, mais son besoin de changement perpétuel est venu la chatouiller à plusieurs reprises. Aujourd'hui coach professionnelle, Elena revient sur son parcours, qui commence donc en Crète. Je vous souhaite une belle écoute.
Donc oui, je viens de la petite île de Crète en Grèce où j'y suis née, j'ai vécu, j'ai fait mes premières études, ma licence en Crète avant de venir en France à 25 ans. Donc voilà, j'ai vécu une bonne partie de ma vie quand même en Crète. Donc voilà, c'est une petite île, une petite ville à Héraklion, c'est la capitale, ça reste quand même une petite ville par rapport à Paris où j'habite actuellement. Et c'est assez particulier le fait que voilà, c'est une mentalité assez insulaire, hein. C'est certes une ville, mais ça reste une île. Donc, avec une certaine fierté des gens qui y habitent et en même temps une petite fermeture quand même au reste du monde. Tu sais, on est les meilleurs. Notre endroit est le meilleur au monde. Il y a un peu cet état d'esprit. Et en fait, très vite, j'ai voulu un peu m'extraire, je pense, de tout ça, même si je suis ultra fière aussi de mon lieu de naissance. Mais assez vite, j'ai voulu effectuer un changement de vie qui était celui de partir à l'étranger. Donc, c'était ce qui a motivé mon départ en France, enfin, en Angleterre, en France, aux Philippines. J'ai un peu voyagé, travaillé ailleurs, voilà. Mais surtout en France où je me suis vraiment installée, fini mes études, mon master enchaîner par la suite. On va parler par la suite. Mais voilà, c'était, je pense, ce premier changement finalement que j'effectuais, c'était cette envie d'ouverture, cette envie de, je pars de ma petite île et je m'ouvre au monde, en fait, quelque part.
Ouais, d'accord. Et donc, tu as quand même vécu jusqu'à 25 ans en Crète. Comment tu as fait tes premiers choix d'orientation, d'études? Comment ça s'est passé pour toi?
Alors, c'était assez tumultueux, tu vois. Il y avait des virages, il y avait des envies qui n'étaient pas toujours concrétisées. Donc, les changements étaient là, en fait, tout le temps. J'ai fait... déjà au lycée, je commençais en scientifique pour me rendre compte par la suite que non, en fait, j'étais une littéraire. Donc, j'ai dû me battre pour changer des filières, ce qui n'était absolument pas évident. Mais voilà, j'ai fait tout pour changer. Donc, j'ai trouvé ma voie, effectivement, qui était tout à fait littéraire. Je n'ai jamais été une scientifique, une matheuse, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il y avait cette approche en Crète aussi où, je sais pas, en France, il y avait ce côté où la filière scientifique était vachement privilégiée. C'était un peu l'élite qui allait en scientifique et les littéraires, c'était un peu les losers, quoi.
Loser, ouais. Je sais pas si c'est exactement ça, mais effectivement, ce qui prédominait, c'est que si tu es un littéraire, tu ne trouves pas de travail. Effectivement, c'est confirmé un peu par la réalité. Mais oui, c'est la même chose. Tu veux un bon travail, un bon salaire, tu fais scientifique. Voilà, en gros, si tu fais littéraire, tu deviens prof. Ce qui était le cas pour moi. Je suis devenue prof par la suite, en effet. C'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie. Par ailleurs, on va en parler. Donc oui, il y a cette distinction-là. Donc c'était pour moi un premier changement où j'ai dû m'affirmer alors que j'avais 15-16 ans, où j'ai dû dire là je change, moi je sais ce que je veux, c'est pas ça, c'est autre chose, etc. Et par contre, à partir de là, mes études ont suivi un peu la même image, c'est-à-dire je commençais par une année de théâtre, des études de théâtre qui finalement ne me convenaient pas. Je me suis rendu compte au bout d'une année que c'était pas ça, donc j'ai voulu changer pour la philo, donc j'ai changé pour aller dans l'école de philo, qui était en fait un cursus multidiscipline. Ce qui m'allait très bien, en fait, c'est des études humanistes. Donc, il y avait philo, lettres, histoire, psy, la totale, en fait. Et ça me convenait vraiment, parce que voilà, ça ouvrait un peu le champ des possibles. Et donc, voilà, c'était un deuxième changement important. C'était ce virage encore dans les études. Et puis un troisième, très très important, c'était le moment où je suis partie en Angleterre pour faire un Erasmus en anglais, donc en philo. Et j'étais même très très motivée, je voulais continuer à faire une thèse en philo en Angleterre. Voilà, tout était déjà presque tracé dans ma tête. Et en fait, 6 mois plus tard, à l'université de Sheffield en Angleterre, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Le système anglo-saxon, la philosophie anglo-saxonne, même les délais, les deadlines anglaises pour une grecque qui ne savait pas du tout mettre des deadlines sur rien du tout, ça ne m'allait absolument pas. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, je voulais quelque chose de plus européen, je le disais à l'époque, c'était le mot que j'utilisais. Et en fait, c'était voilà, l'aspect un peu des études en France, plus humaniste, plus historienne, plus l'humain au centre de tout, et non plus la logique, la philo en soi. Donc voilà, je voulais m'orienter voilà, vers quelque chose de plus français, d'où la France.
Et est-ce que le fait d'avoir eu comme ça finalement toujours des changements, comment tu le vivais ? Est-ce que ça te paraissait bizarre ? Est-ce que d'ailleurs autour de toi, je sais pas, par exemple tes parents trouvaient ça bizarre, tes enseignants, comment tu vivais ça ?
Alors, effectivement, tout le monde me faisait comprendre que c'était bizarre. Tout le monde me faisait comprendre que c'était pas normal de changer autant. Donc, pendant longtemps, effectivement, je vécu avec cette idée de moi, en tant que celle qui n'arrive pas à être stable, celle qui n'arrive pas à se fixer sur un truc, qui papillonne, en gros, qui va d'un truc à l'autre. Et très longtemps, je culpabilisais, en fait, en me disant qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et en même temps, c'était plus fort que moi. C'était impossible de ne pas faire des changements. C'était impossible de rester et continuer juste parce que j'avais dit qu'il fallait que je fasse telle chose ou telle chose. C'était impossible. Donc, il y avait un grand conflit pour moi jusqu'à l'âge, voilà, des 25 ans. À partir du moment où j'ai pris la grande décision de partir à l'étranger et de vivre toute seule. Enfin, je vécu toute seule depuis mes 18 ans, mais c'était un changement quand même structurel assez énorme. Le moment où je suis venue ici. Et en fait, j'ai commencé à accepter avec de la psychothérapie. Hein. Je passais aussi une longue phase de psychothérapie en France, ouais. Et c'était le moment où j'ai commencé à accepter le fait que mon mécanisme est celui du papillonnement, celui de vouloir justement découvrir plein de choses. Bah, c'est assez marrant parce que c'est à ce moment-là où je commençais à me stabiliser beaucoup plus et à faire des choix qui duraient beaucoup plus longtemps. Donc, c'est assez intéressant.
Finalement, d'accepter que tu étais comme ça et que tu avais besoin de papillonner, ça t'a permis d'avoir une meilleure stabilité,
Exactement.
C'est
ça ? Tout de suite, c'est parti sur 10 ans de métier de prof, quand même assez stable, tu vois, jusqu'à ce que le grand changement aussi arrive, on va en parler par la suite. Mais oui, quand même, le fait d'accepter finalement, déjà, tu perds pas ton énergie, je pense, à la mettre dans les choses qui n'ont pas trop de sens, c'est-à-dire te battre contre toi-même, te battre contre ta propre constitution, ton propre fonctionnement. En fait, tu l'acceptes et après, beaucoup plus facilement, tu peux canaliser ton énergie en fait sur autre chose.
Ouais. Et dans cette phase où tu papillonnais, est-ce que tu avais une quête ? Est-ce que tu avais cette volonté de te dire là vraiment je vais trouver mon truc à moi et c'est bon, c'est parti, je vais me stabiliser là-dedans ? Comment tu voyais les choses?
Oui, en fait, ouais, j'étais vraiment inquiète d'enthousiasme. Il me fallait un enthousiasme continu. Il fallait que la passion, l'enthousiasme, le excitement ne soit jamais terminé, en fait. Et donc, c'était ça qui me faisait vraiment bouger, me faisait à chaque fois changer. Et je pense que c'est là où, justement, je pus me poser un peu plus. C'est quand je commençais à être nourrie par d'autres émotions que l'enthousiasme à tout prix. C'est là où, voilà, je commençais à avoir l'enthousiasme qui retombe, mais je trouve quand même ma source de motivation dans d'autres choses, peut-être dans d'autres émotions que l'enthousiasme, tu vois. Donc, c'était plutôt cette quête-là. Et c'était aussi une quête de, effectivement, un truc, le truc, ce truc qui va être mon truc à moi. Alors que la vie me montre maintenant que j'ai 40 ans, qu'en fait, non, on n'a pas un truc, on peut avoir plusieurs trucs, on peut changer, on peut trouver notre bonheur dans plein d'activités différentes, pro ou perso. D'ailleurs, tout ne se réalise pas que par le pro, même si je suis très très pro quand même dans mon approche, mais voilà, je reconnais cet aspect perso qui peut aussi nous épanouir dans la vie. Et donc oui, maintenant je sais que voilà, on peut trouver notre épanouissement dans plusieurs choses et l'enthousiasme accru n'est pas non plus un critère infaillible en termes de choix de vie.
Et donc, justement, tu as eu cette période vraiment stable où tu as été prof. Et donc, si je comprends bien, ça a laissé place à d'autres émotions. Quelles étaient ces autres émotions? Qu'est-ce que tu ressentais durant cette période de vraiment de stabilité?
Alors, c'était pas une période facile, je vais pas te mentir, c'était pas 10 ans de légèreté, parce que quand même, c'était un énorme travail sur moi, le fait d'être face à des élèves, 30 élèves de collège ou de lycée, je changeais plein d'établissements, c'était vraiment un travail sur moi. Et je me levais pas avec un enthousiasme aux lèvres tous les matins. Par contre, il y avait des moments d'enseignement, des moments où tu as les retours les élèves, où tu vois la progression des élèves, où c'est quand même magique, où c'est quand même là, c'était très, très gratifiant. Tu te dis quand même, je sers à quelque chose. Et c'est ce sentiment-là qui m'a fait tenir quand même 10 ans. C'est ce sentiment-là, l'amour de transmettre des connaissances qui m'étaient chères, ou le fait de voir la progression, ou le sourire chez les élèves, quand même, c'était une belle chose. Après, ça, c'était quand même, c'était pas le principal de mon emploi des temps. C'était absolument pas ça. C'était quand même beaucoup de travail, beaucoup de patience. Il fallait vraiment que je développe mon sens de patience, de discipline, des limites. Mettre des limites, c'était vraiment le truc le plus dur pour moi qui voulait être la prof cool. Mais si tu veux être une prof cool, voilà, c'est pas si évident avec des enfants qui ont besoin de discipline et de limites. Voilà. Donc, c'était pour moi, je le prends comme 10 ans de travail sur moi qui m'a permis quand même d'en sortir beaucoup plus forte, vraiment, en sachant mettre mes limites, chose qui m'aide énormément dans mon travail de coach aujourd'hui, parce que on a vraiment besoin de ces limites-là, de ces cadres-là. Et puis la patience. Et puis la patience. Là, j'ai 2 enfants. Si j'avais pas été prof avant, je pense que je les aurais pas accueillis de la même manière, j'aurais pas le même niveau de patience que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, finalement, ma motivation était quand même, je la puisais dans ce travail que je faisais sur moi, en toute conscience, en me disant que, OK, c'est pas terrible tous les jours, c'est dur, c'est mal payé. Voilà, il y avait beaucoup d'arguments contre, mais quand même, je sais que je vais sortir plus forte de cette période, et ça a été le cas. Par contre, il y a eu aussi un moment où, voilà, c'était le point où j'avais fait vraiment le tour et il fallait que ça change encore une fois. Et là, ouais, c'était le changement qui était nécessaire vraiment à la fin.
Ouais. Et tu me disais aussi, c'est une période où aussi personnellement, ta vie aussi, elle s'est posée sur le plan aussi personnel. Tu as eu des enfants, tout ça, parce que du coup, tu avais beaucoup voyagé avant. Donc, finalement, tout s'est stabilisé autour de toi.
Exactement, et t'as raison, effectivement, il y avait ce parallèle à perso où effectivement, en même temps que mon métier de prof, c'était le moment personnellement où effectivement, je me suis posé un couple pendant 10 ans, donc c'était à peu près que la même période que l'enseignement. J'ai fait mes 2 enfants, donc à tous les niveaux de ma vie, c'était vraiment la stabilité. Et alors qu'effectivement, juste avant de devenir prof, j'étais partie un an vivre aux Philippines parce que je voulais faire le tour du monde. Donc voilà, il fallait que je parte encore, même quand j'étais en France. Mais chose qui est terminée une fois qu'on a des enfants, voilà, ces envies de voyage, aller au bout du monde, voilà, là, ça s'est calmé un peu. Ça va revenir très certainement, mais voilà. Et bien sûr, le moment de le perso a aussi terminé en même temps que le pro, c'est-à-dire le moment où j'ai changé de métier, mon couple aussi précédent était terminé en même temps. Et là, je suis passée effectivement dans une autre phase de changement de vie qui me correspondait beaucoup plus, qui est celle d'aujourd'hui en fait, dans laquelle je me retrouve beaucoup plus épanouie finalement.
Qu'est-ce qui t'a amené donc à avoir de nouveau besoin de changement et de changement profond finalement, parce que là aussi ça a touché ta sphère perso?
Oui, en fait, c'était vraiment une question des valeurs. C'est-à-dire que je me suis convaincue, auto-convaincue, mais je pense que c'était une bonne chose, il fallait que je passe par là, que j'avais besoin de sécurité. Donc, avec ce besoin de sécurité, qui était une valeur qui revenait souvent dans ma tête pendant cette période, et j'ai passé un concours pour être un fonctionnaire, alors que le fonctionnariat n'a jamais été un rêve pour moi, et au contraire, je le voyais même comme une sorte de piège, et pourtant, je l'ai fait pour avoir cette valeur sécurité. Et en fait, au bout de 10 ans, et avec un travail sur moi, bien sûr, de psychothérapie et de coaching, j'ai compris qu'en fait, moi, ma vraie valeur, la primaire, la valeur qui m'a toujours fait bouger, c'était la liberté. Ça n'a jamais été la sécurité. Donc, je me suis rendu compte que c'était un conflit qui était très profond, parce qu'on est sur deux valeurs qui peuvent être quand même contradictoires, qui peuvent être, l'une peut annuler l'autre quelque part. J'avais besoin de passer par là, tant mieux. Ça a dû me sécuriser. Le moment en plus où je devenais maman, je pense que c'était important de la vivre, mais c'était pas ma valeur profonde qui m'est motivée. Donc, quand j'ai compris ça, et en fait, quand j'étais déjà prête au niveau des conditions de vie aussi et de mon mindset, je vais dire comme mot facile à utiliser, mais voilà, j'avais cette confiance en moi. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il fallait que je rejoigne cette valeur de liberté qui était risquée. Effectivement, c'était très risqué. J'ai dû quitter mon métier avec une rupture conventionnelle. J'ai dû me battre pour l'avoir. Tout le monde me traitait de folle. Comment ça, tu as eu le concours et tu vas quitter le fonctionnariat qui te stabilise à vie et tu as un salaire qui tombe jusqu'à la fin de tes jours. Et en fait, plus j'entendais ça, plus j'avais les boules, quoi. Plus je me disais, mais non, c'est comme ça avec mes jours, je vais être fonctionnaire, c'est horrible. Et en fait, voilà, parce que c'était pas moi, tout simplement, c'était pas moi. Heureusement, il y a des gens qui sont faits pour ça. C'était pas moi. Donc, il fallait que je quitte tout. Il fallait que je quitte tout, que je reconstruise tout pour bien vivre en liberté comme moi j'entendais ma liberté. Donc là, c'était vraiment très très conscient comme changement.
Et tu as parlé du fait que tu t'étais auto-convaincu que tu avais un fort besoin de sécurité. Comment t'expliques ça, le fait que tu aies eu ce besoin de t'auto-convaincre?
Alors, j'ai eu besoin parce que je pensais la peur qui a pris le dessus. Un devenant maman, c'était un cocktail de hormones, des peurs qui se réveillent dans la tête. Donc effectivement, là, t'as toutes les peurs qui se réveillent, la peur de l'inconnu. Il faut des choses très très stables, il faut une routine, il faut des repères. Et c'était aussi la peur de manquer, très très concrètement, avec des images terrible en tête, je peux pas ne pas avoir un salaire parce que je vais me retrouver dans la rue avec mes deux enfants à dormir sous un pont. Voilà, c'est des trucs vraiment très très tragiques, le scénario catastrophe. Mais voilà, ça a duré quelques années pendant que les petits sont vraiment petits. Après tu retrouves ta constitution normale, heureusement.
Est-ce qu'il y a eu un déclic justement qui t'a fait prendre conscience que ben non, t'avais plutôt une valeur liberté prédominante ou ça s'est fait progressivement?
C'était quand même progressivement avec quand même, il faut le dire, avec un manque extraordinaire d'écoute envers moi-même. C'est-à-dire que cette période-là, elle aurait pu tenir que 5 ans. Elle n'a pas duré 5 ans, elle a duré 10 ans. Parce que quand même, volontairement, je pense que je ne me suis pas écoutée pendant longtemps. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivée à faire un burn-out. Mon déclic, c'était clairement un burn-out. Toujours au lendemain, j'étais incapable de retourner en cours. Et je pense que c'est parce que j'avais ramassé sans vouloir m'écouter. Donc voilà, ça s'est exprimé au bout d'un moment, mon corps s'est exprimé et il me l'a dit. Et là, je compris. Il fallait que mon corps s'exprime pour que je comprenne, en fait, tout simplement. Et à partir de là, je fais une psychothérapie, je fais du coaching et ensuite, j'ai compris que je voulais changer, en fait, de route. Et à partir de là, je me suis formée, etc. Mais oui, c'est pas fait dans la douceur, quoi. C'est fait vraiment parce que c'était la cerise sous le gâteau, le truc de trop.
Et tu disais qu'effectivement, les gens autour de toi disaient « mais t'es folle, pourquoi tu fais ça ?» etc. Et toi, comment t'as pu expliquer aux gens qu'est-ce que tu disais ?
En fait, je dis les gens, mais c'est pas vrai. Parce que les gens qui me disaient ça, c'était les gens qui n'étaient pas vraiment proches de moi, qui ne me connaissaient pas très bien. J'avais quand même le soutien de ceux qui étaient le plus proches de moi, dont ma mère. Et ça, c'est très important parce que ma mère, alors que c'est la mère et qui a peur et qui veut le mieux pour sa fille et qui, effectivement, pour elle, la chose la plus terrible, c'est qu'il puisse m'arriver un problème. Et pourtant, comme elle était entrepreneur dans sa vie, et même avec des galères et des hauts et des bas, elle a toujours été, en fait, dans un métier d'indépendante. Donc, si tu veux, moi, j'ai eu ce modèle-là que même avec des galères, elle est quand même libre. Elle n'a quand même pas un patron au-dessus de sa tête, tu vois. Et donc, elle savait, en fait. Elle savait la valeur de ces trucs-là. Elle-même, elle avait vécu. Elle-même, elle défendait. Elle-même, elle était manager aussi. Donc, elle manageait très souvent de gens dans des différentes sociétés. Elle a dû passer par ces postes-là pour... et en fait, elle savait ces sentiments, en fait, d'être forte, d'être indépendante, d'être libre. Donc, tu vois, et en même temps, elle était partagée entre sa peur, et en même temps, elle me disait, vas-y, parce que je sais ce que ça vaut, en fait. Donc, voilà, si t'as le soutien quand même de la famille proche comme ça, c'est quand même quelque chose qui t'aide à aller encore plus loin.
Ouais, c'est quand même un soutien assez solide qui encourage en tout cas à changer et à aller vers des nouveaux projets, quoi.
Exactement, exactement.
Et alors, du coup, après, comment ça s'est passé? Donc, tu as dû négocier cette rupture conventionnelle. J'imagine qu'elle n'a pas été simple.
Non, ça a été vraiment le parcours du combattant. C'était tout nouveau, en fait, de l'éducation nationale. Ça n'existait pas, la rupture conventionnelle avant. Et on pouvait démissionner, mais pas avoir une rupture conventionnelle. Et je tenais quand même à l'avoir pour faire mon changement de vie en douceur avec une indemnité de départ, qui n'est vraiment pas exceptionnelle dans l'éducation nationale. Mais c'était rien que pour le côté symbolique. J'avais vraiment besoin de ça. Et pour cette transition en douceur. Et donc oui, ça a duré entre le moment où je l'ai demandé et le moment où je l'ai eu, un an et demi. Donc voilà, un an et demi avec des relancements, voilà. Je relançais des rendez-vous, des avocats, voilà. Et finalement, je l'ai eu. Et voilà, la libération et le soulagement, les jours où je l'ai eu, je te raconte même
pas. Ouais. Et donc, du coup, quand même, pendant un an et demi, c'est assez long. Comment, est-ce que toi, t'as réussi à quand même avancer vers autre chose ou tu te sentais toujours, rattaché à ça et peut-être que ça t'empêchait d'aller vers d'autres projets? Comment ça s'est passé, cette période de transition?
Alors non, mon projet, c'était très clair dans ma tête. Déjà, c'était le projet coaching. Donc, de toute façon, je m'étais lancée, je m'étais déjà fait former. Donc, j'avais déjà fait toutes les démarches de mon côté. Donc, moi, j'avançais de mon côté. Et au contraire, c'était un argument aussi pour la rupture conventionnelle. Il fallait qu'on ait un projet concret, solide pour la suite. Donc, en fait, je présentais mon projet de coaching qui a été accepté, etc., avec un business plan la totale. Tu vois. Donc oui, pour moi, j'avais déjà avancé, j'avais déjà quitté l'enseignement depuis longtemps, en vrai. Tout ça, c'était déjà fait. Mais quand même, le fait de ne pas l'avoir eu tout de suite, le fait d'être rattaché, ne serait-ce que par les statuts, à l'éducation nationale, c'était pour moi quand même un frein. C'est-à-dire, je ne me donnais pas toutes les chances pour avancer. Je faisais pas tout ce que je pouvais pour élargir mon réseau, pour communiquer à fond. Donc, il y avait quand même toute une partie qui me manquait. Et qu'une fois que ça a été, accordé, effectivement, là, j'ai pu me lancer avec beaucoup plus de dynamisme là-dedans pour développer mon entreprise.
Ok. Donc, du coup, tu t'es formée au coaching avant de quitter officiellement l'éducation nationale. Qu'est-ce qui t'a amené au coaching?
Ah, le coaching. Alors, ça aussi, c'était quelque part un fil conducteur depuis toujours, en fait, mais je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas compris. Et puis, il n'y avait pas le mot coaching depuis 40 ans. En tout cas, moi, je n'étais pas en contact avec cette notion, cette discipline. En fait, très concrètement, je l'ai compris pendant que j'étais prof, tout simplement. Parce que il y avait des ateliers que j'étais dans une école privée à la fin de ma carrière très prestigieuse qui organisait des ateliers bien-être pour les élèves où les profs pouvaient faire des exercices de pleine conscience de efficacité etc pour les élèves et en fait la dernière année de mon enseignement j'avais compris que ce qui me motivait le plus dans l'enseignement c'était ces moments-là d'ateliers bien-être avec les élèves. Je m'en fichais complètement de tout le reste, du latin, du grec, du français, de tout ce que j'enseignais, mais les moments well-being, ça s'appelait, c'était les moments qui me motivaient vraiment pour aller à l'école. Donc, j'avais commencé déjà à comprendre que il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus de l'ordre de accompagner l'être humain à sortir quelque chose de bon en lui, en fait, et pouvoir me rendre vraiment utile, tu vois. Il y avait cette notion d'utilité. Là, je me sentais utile. Quand j'enseignais du latin, je me sentais pas utile, en fait. Même si j'adorais ça, je me sentais pas utile, tout simplement. Et donc, il y avait ça quand même qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Et ensuite, je fais une psychothérapie et je me suis fait coacher moi-même. Et c'était la première fois où je me faisais coacher. Je savais pas avant que ça existait, même le coaching. Je prenais conscience, en fait, de l'existence de ces trucs. Et c'était à partir de là, avec mon coach, où, en fait, on a vachement travaillé sur ma mission de vie, sur mon identité, sur mes ressources profondes, enfin, tout ce qu'on fait en coaching d'habitude. J'ai compris qu'en fait, je voulais accompagner des personnes, je voulais être dans le métier d'accompagnement et très concrètement, des coachs, quoi. J'ai adoré ce que j'ai vu et j'ai adoré ce que je projetais de moi. Et donc, voilà, à partir de là, c'était clair et net qu'il fallait que je suive cette voie-là et je regrette pas une minute, malgré les dérives et tout ce qu'on peut dire sous les coachs. Moi, j'adore ce métier. Je sais son utilité aujourd'hui. Donc, ouais, c'était le bon changement. Je suis contente de l'avoir fait.
Ouais. Ouais. Et toi, le fait d'avoir pris l'initiative de te faire coacher, c'était quoi? C'était par rapport à un objectif justement professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené justement, toi, à te faire coacher?
C'est ça, parce que j'ai fini ma psychothérapie, ça allait vachement mieux, je n'étais plus en dépression, elle a été traitée vraiment avec une thérapie et des médicaments, parce que j'ai eu besoin bien sûr de passer par là, c'était un vrai burn-out, mais je me suis retrouvée avec beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Il était hors des questions de retourner en classe, en fait. Je ne pouvais plus retourner en classe. Aujourd'hui, je ne vois plus les choses de la même manière. Aujourd'hui, je pourrais reprendre une classe sans problème. Aujourd'hui, je pourrais devenir même formatrice. Plus tard, ça me plairait. Parce que l'enseignement, quelque part, est toujours à moi. Mais à l'époque, c'était pas possible. Donc, la question, c'était qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de changer tout simplement de métier. C'était pas si évident avec mes études théoriques. Tout était théorique. Philosophie et compagnie, effectivement, tu ne peux devenir que prof très souvent. Et rien ne me satisfaisait. Je cherchais des boulots, même des rédacteurs, j'adore ça, rédiger. Mais rien n'était vraiment satisfaisant à moi, en fait, tu vois. Et donc, oui, le coaching, ça m'a été proposé par je sais plus qui. Oui, c'était une amie très proche qui m'a dit, mais est-ce que t'as essayé de faire un life coaching? Je dis, c'est quoi ces conneries? Donc, tout de suite, c'était, c'est quoi? C'est encore un nouveau truc. Et en fait, quand même, j'ai dit, c'est quoi ces conneries? Mais en même temps, je dis, ah, tiens, je vais aller regarder ce que c'est. Et j'ai trouvé un coach et à partir de là, voilà, je suis tombée amoureuse de ce truc, justement. Amoureuse. Donc, oui, c'était surtout ça. Trouver ma voie, comprendre ce que je veux dans ma vie. Et avancer par la suite.
Ouais. Et tu parles de l'humain aussi, qui est assez central à chaque fois dans tes choix. T'as dit justement dans l'idée de venir en France, ben il y avait ce côté. Tu voulais retrouver l'humain au cœur aussi de tes études, de ce que t'apprenais. C'est quoi l'humain pour toi?
D'abord, bravo pour ta question. Elle est super pertinente. J'adore, parce que t'as raison.
Question de coach.
J'adore, oui, t'as raison. Je me rends compte et j'ai répété les mots humain, humaniste plusieurs fois. Effectivement, t'as raison. Alors, qu'est-ce qu'est l'humain pour moi? Ok, merci pour cette question où tu me poses une colle juste énorme, parce qu'il me faut 5 heures pour répondre à ça. Alors, l'humain qui m'intéresse, en fait, c'est pas un humain idéalisé, en tout cas aujourd'hui. Ça l'a été peut-être par le passé. Donc, l'humain qui m'intéresse, c'est vraiment ce noyau, ce qui fait que tu n'es pas quelqu'un d'autre, ce qui fait que tu as tes propres faiblesses, ce qui fait que tu es parfois même pas un humain, mais tu peux être même un animal, plus proche d'un animal qu'un humain. Mais en même temps, tu as en toi cette envie de progresser qui fait de toi un humain, justement. Et c'est tout ça qui m'intéresse, ces petits noyaux. Et ce qui m'intéresse aussi dans l'humain, c'est l'étymologie, en fait, du mot humain, qui est en grec anthropos. Anthropos qui donne donc le mot anthropologie, etc. Et anthropos, c'est un mot génial. Moi, je l'adore, ces mots. Anthropos vient de deux mots. Ano, qui veut dire un haut, et throsko, qui veut dire regarder. Donc, anthropos, c'est celui qui regarde vers le haut, en fait. Il lève la tête et regarde vers le haut. Et j'adore. J'adore parce que ça veut tout dire de l'humain, en fait. C'est-à-dire que déjà, c'est celui qui s'est levé pour regarder vers le haut et qui marche sur ses deux jambes, très concrètement. Mais c'est lui aussi qui regarde, qui s'élève, en fait. Qui a cette capacité de, voilà, de spiritualité, de religion, de réflexion, de rationalité, tout ce que tu veux, tout ce qui concerne la tête et ce qui dépasse, en fait, la tête au niveau vertical. Et ça, j'adore cette image. Et en fait, c'est ça, finalement, je pense, quelque part, qui rejoint ma motivation pour faire ces métiers, c'est cette notion de élever, en fait, ce qui est à nous, de le rendre un peu plus haut.
Élever l'humain vers le haut.
Exactement, amener le vers le haut, mais pas trop perché, tu vois, tu me connais un peu, c'est vraiment vers le haut, mais en gardant les pieds quand même sur terre, tu vois.
Justement, comment t'as, parce que t'as dit, hein, la première fois qu'on t'a parlé de coach, t'as dit c'est quoi cette connerie, etc. Et du coup, comment toi t'as réussi à t'approprier finalement vraiment ce rôle et ce métier de coach?
Oui, alors j'ai dit, en plus, j'ai dit c'est quoi cette connerie sans savoir encore, c'est que c'est vraiment colérique, on dit vraiment. Parfois, c'est le coaching. Donc, imagine maintenant. Maintenant que j'ai conscience de tout. Alors, oui, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire qu'au début, j'ai resté quand même sur quelque chose d'assez généraliste, mais je savais quand même qu'il était bon pour moi. Déjà, c'était bon, très bénéfique pour moi. Donc, j'étais déjà convaincue de son utilité pour les autres. Mais quand même, assez rapidement, je commençais à en avoir marre de tout ce que je voyais passer sur Instagram et ailleurs sur le coaching. Ça commençait très rapidement quand même à devenir un peu creux pour moi. Donc, tous les livres de dev perso, tout ça, franchement, au bout d'un moment, ça, voilà, ça commençait à tourner en rond. Et c'est là où je sens que je trouvais quand même quelque chose qui est plus proche de moi et en tout cas qui fait un fil conducteur finalement avec le reste de ma vie. Et c'est que j'ai toujours été mon parcours de vie. C'est le fait de introduire des éléments dans le coaching qui viennent justement du reste de ma vie, c'est-à-dire la philo, les lettres, l'art, donc tous ces côtés-là, études humanistes dont on a parlé tout à l'heure, qui donnaient en fait beaucoup plus de consistance. Donc, ça commençait doucement par introduire tout simplement dans mon coaching et chez mes coachés des lectures ou des réflexions, des textes, des théories philosophiques, etc. Donc, ça commençait comme ça de manière très informelle et très officieuse. Et moi, ça me nourrissait vraiment, ça me faisait du bien vraiment et le coacher aussi parce que ça apportait quelque chose de, pour moi, beaucoup plus nourrissant. Et ensuite, ça a pris vraiment un format beaucoup plus concret une fois que je fais tout ce cheminement. Et c'est là où j'ai mis au point, en fait, une méthode finalement de coaching en utilisant des œuvres d'art. Et donc, j'ai créé voilà, le coaching par l'art hein, que j'appelle Zen au musée et qui donc, j'utilise des œuvres d'art pour faire du coaching, en gros. Je ne peux pas aller dans les détails de tout ce que je fais, mais voilà, pour moi, c'était l'injonction parfaite de ce qui me nourrissait et qui est pour l'humain, justement, ça sert à nous élever, cette image d'élévation dont je parlais, et en même temps du coaching avec l'efficacité et les outils du coaching. Et c'est là que je me retrouve. Là, je me retrouve vraiment entre deux choses qui me correspondent complètement.
Ouais, on voit bien le lien. Est-ce que tu as un sentiment que ouais, les pièces du puzzle se sont assemblées et que finalement, ben, tu as une consistance vraiment aujourd'hui et tu trouves vraiment ta place aujourd'hui dans ce que tu fais?
Oui, et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est quand même un puzzle sans fin. Je n'aime pas le penser comme un puzzle qui manque un morceau où on a trouvé le morceau et là c'est prêt parce que je me rappelle gamine une fois que le puzzle était fini en fait ok c'est chiant tu le remets dans la boîte tu fais plus rien avec tu vois donc si c'est juste avoir une vie où tout va bien mais en fait il y a plus de nouveaux défis ça m'intéresse pas clairement pas donc je sais que l'évolution et encore les changements mais peut-être maintenant, peut-être pas aussi radicaux, quoique on ne sait jamais, mais je pense qu'effectivement, normalement, ils ne seront pas aussi radicaux, mais je pense que j'aurai toujours besoin. J'ai déjà des idées qui me viennent en tête pour, voilà, dans un an ou deux, j'ai plein de choses qui me viennent, qui correspondent à mon caractère, ma personnalité, et le besoin aussi que je constate de mes coachés. Donc, je pense que je vais être amenée encore à évoluer. Et puis, je ne sais pas si ce nom, cette appellation de coach aussi, je voudrais la garder longtemps. Ça dépend. Si notre réputation continue à prendre des coups comme ça, franchement, c'est possible que je change aussi à un moment donné, tu vois. Mais en tout cas, voilà, j'essaie maintenant, c'est que je ne veux plus le lâcher. En fait, c'est l'accompagnement. Quoi qu'il arrive, l'accompagnement, je ne lâche plus parce que j'adore. J'adore en plus l'accompagnement en individuel. Donc, moi, face à une personne, c'est ma zone de génie. Ça, je le sais. C'est vraiment, c'est là où je me sens le mieux et je suis très, très efficace. Donc, ça, je ne lâche plus jamais. Par contre, ouais, ça peut prendre des différentes formes. Ouais. Je me laisse l'ouverture là-dessus.
Et donc, il y a ce métier de coach et il y a l'entrepreneuriat parce que du coup, tu as créé ton activité. Comment tu as vécu peut-être les premières années d'entrepreneuriat parce que pour le coup, on est vraiment dans le côté l'indépendance, la liberté et en même temps l'instabilité. Est-ce que tu as eu des peurs, des craintes qui se sont réveillées, des choses plus difficiles qui se sont passées pour toi à ce moment-là?
Oui, bien sûr, évidemment, comme pour tous les entrepreneurs. C'était très facile les premières années, parce que il y avait d'une l'enthousiasme, l'excitation d'y aller, et en plus il y avait quand même le côté un peu sécurisant de ce changement avec la rupture conventionnelle. Donc les peurs ne pouvaient pas vraiment être activées parce qu'il y avait une certaine sécurité, un petit matelas. Et par contre, par la suite, oui, c'était effectivement la peur de l'inconnu, la peur du vide, qu'est-ce qu'on fait, la peur du manque qui est revenue, évidemment. Il y avait des moments où j'ai réfléchi, j'ai douté, je me suis dit, est-ce que je ne reprendrai pas un travail de prof ou est-ce que je ne retournerai pas dans le salariat? Donc, effectivement, je me suis posé cette question. Et heureusement, mon compagnon ne m'a jamais laissé retourner dans le salariat en me disant « Non, tu vas faire une connerie, tu vas le regretter, tu es une super coach, il faut que tu tiennes. » Donc voilà, le fait qu'il me soutienne vraiment psychologiquement, c'était important. Donc, je suis jamais retournée. Mais oui, il y avait des doutes, c'était même horrible à vivre. Il y avait des moments où je me disais « Mais jamais, jamais je pourrais vraiment faire quelque chose de ce métier. » Et paf, il suffisait de dire ça et me remettre en doute complètement pour que le mois d'après, ça aille super bien, en fait. Donc, il y avait quand même de montagnes russes qui étaient difficiles à gérer. Là, franchement, ça commence à se stabiliser depuis plus d'un an. Donc, c'est quand même agréable le moment où ça devient plus stable, mais avec évidemment les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Ça, je l'ai dit très souvent à mes coachés qui attendent des mois qui se rassemblent. Non, un mois ne rassemble pas un autre quand on est un entrepreneur. Non, c'est jamais la même chose. Et voilà. Et pour moi, la plus grande difficulté, c'était le fait de sortir de l'état d'esprit de la salariée, de la fonctionnaire qui sait qu'elle aura tant d'argent sur son compte à la fin du mois et commencer à réfléchir à non pas un chiffre d'affaires mensuel, mais un chiffre d'affaires annuel. Ça m'a pris du temps pour le comprendre. Parce qu'effectivement, oui, si tu réfléchis mois par mois, t'es mal. T'es vraiment mal parce qu'il y a des mois où il se passe rien, tout simplement. Il y a des mois super. Et là, il va falloir savoir les gérer, en fait. Donc, c'était ça ma grande difficulté. C'est finalement trouver l'état d'esprit de l'entrepreneur, en fait. C'est lui qui connaît sa réalité, la réalité de l'entrepreneuriat, tout simplement. Mmh. Ouais.
Comment tu décrirais aujourd'hui ton état d'esprit d'entrepreneuse?
Alors, aujourd'hui, les beaux jours, je suis très sereine, enthousiaste, consciente de tout et j'avance de manière dynamique. Ça, c'est les beaux jours, tu vois. Ouais. Il y a quand même des jours beaucoup moins nombreux maintenant. Ça, c'est ma réussite, c'est que ces jours-là existent toujours, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Où, en fait, j'ai remis tout en question, mais pas complètement, mais tout quand même. Et notamment, comme je te disais tout à l'heure, au niveau du coaching, en me disant, mais il se passe tellement de choses que m'insupporte dans ce domaine. Est-ce que vraiment j'ai envie de faire partie de ça? Je me pose quand même ce genre de questions aujourd'hui. Donc, il y a des moments de remise en question, mais que finalement, j'essaie maintenant de tirer profit en allant plus loin dans ma réflexion et en réinventant à chaque fois. Donc, à chaque fois que quelque chose me fait douter de mon métier, en fait, je le réinvente et je vois son efficacité et je le défends encore plus par la suite. Donc, voilà, il y a ce mouvement-là. Mais en fait, c'est mouvementé. En fait, aujourd'hui, j'accepte que je suis posée parce que je suis dans un mouvement constant. Donc, je ne peux pas être posée sans mouvement. C'est le mouvement et sa conscience qui fait que je suis posée aujourd'hui, en fait.
Ouais, et c'est ça qui te nourrit du fait de ton besoin de changement et de papillonner, finalement, comme tu disais au début.
Exactement, exactement. En fait, tu as raison. Je pense que si on a ces caractères-là, l'entrepreneuriat, en vrai, c'est fait pour nous, en fait. Parce que ça peut nourrir à ce côté, ça bouge tout le temps et tu t'ennuies jamais. Ça, c'est sûr. Donc, en fait, t'as pas le temps de faire de vrais changements radicaux parce que tu as tellement de mini-changements tous les jours dans ta vie que, t'es satisfait.
Ouais.
Complet.
Est-ce que tu parce que j'ai l'impression moi des fois qu'on l'entrepreneuriat c'est un peu le nouveau Graal. Comment tu vois ça? Est-ce que si tu as des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, est-ce que tu dirais vas-y, fonce, on n'a qu'une seule vie, etc. ou est-ce que tu mesurerais un peu plus le conseil?
Oui, je pense que tu connais la réponse déjà. Ouais, non, j'essaie aujourd'hui, je suis persuadée que ce n'est pas fait pour tout le monde, clairement, et même si parfois on peut avoir besoin de passer par l'entrepreneuriat, parce qu'on doit remplir, certainement, on doit renforcer une compétence qu'on n'a pas, ou notre capacité de sortir de la fameuse zone de confort, etc., etc., ce n'est quand même pas fait pour tout le monde. Et j'ai eu pas mal de coachés qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, qui ont pris des murs pour qui était très, très dur. Et ils ont dû se relever et retourner dans le salariat. Et c'était vraiment terrible pour eux et très, très douloureux parfois. Donc voilà, moi, je mesurerais, je dirais déjà de faire les choses vraiment étape par étape, ne pas faire quelque chose de radical, surtout dans des périodes d'instabilité financière, des crises, d'inflation, de guerre, de tout ce que tu veux. Voilà, un peu le contexte un peu catastrophique qu'on vit. Donc, je pense qu'il serait très pertinent de prendre le temps, vraiment, cultiver cette patience, de prendre le temps, peut-être faire un side project, de mettre de côté, d'économiser, de vraiment apprendre l'entrepreneuriat petit à petit en parallèle avec un job ou avec une sécurité financière, si la personne a la possibilité. Mais oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux quand même éviter les changements radicaux, insécurisants de ceux où tu te lances dans le vide. Parce qu'en fait, ça peut être très, très douloureux le retour à la réalité, en fait. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, mesurez, prenez le temps, faites-vous coacher. Évidemment, le coaching, ça, je suis persuadée que c'est un bon truc pour vérifier déjà si c'est notre truc. C'est faire accompagner par des accompagnants professionnels de l'entrepreneuriat, comme toi. C'est pas pour te faire la pub, mais quand même, voilà, c'est vrai, c'est important. Pour avoir aussi accès à tout ce côté réalité, en fait, la réalité du terrain et comment on fait concrètement, parce que c'est des connaissances qu'on n'a pas, qu'on ne nous apprend pas à l'école. Donc, oui, vraiment, prends ce temps, c'est faire accompagner, beaucoup réfléchir, mais y aller quand même. Y aller quand même si vous sentez vraiment que le cœur y est et que, voilà, c'est que vous ressentez finalement comme gain dépasse toutes les peurs et voilà, tous les inconvénients. Là, quand même, il faut y aller aussi au bout d'un moment. Il faut y aller doucement, mais y aller quand même.
C'est ça. Moi, je dis souvent de le prendre comme une expérience, finalement une expérience parmi d'autres, et la vivre pleinement. Ouais.
Exactement, oui. C'est ça. Si on voit la vie aussi comme un terrain de jeu, ça peut être cool. Ça peut être aussi un terrain de jeu. Mais faisons-le aussi de manière sécurisée. Un jeu, mais sécurisé quand même.
Tout à fait. Respecter ses besoins fondamentaux, c'est important. Est-ce que tu as une devise de la vie, toi, qui te représente, qui représente aussi ta manière de voir les choses dans la vie et que tu as envie de partager?
Bonne question. J'ai eu plusieurs par le passé. Tu sais quoi, dernièrement, j'en ai une qui est en fait une citation que j'ai mise en plus ce matin dans ma newsletter, qui ne vient pas de moi, ça vient de l'auteur de Harry Potter, et qui est nos choix nous représentent bien plus que nos compétences. Représentent qui nous sommes plus que nos compétences, nos choix. Elle est mal dite, hein, la phrase, comme je l'ai dite, mais t'as compris le truc principal. En fait, oui, aujourd'hui, c'est en fait finalement cette responsabilité face à nous-mêmes, parce qu'on a tous du potentiel, on a tous des capacités, on a tous des rêves, mais c'est finalement ce passage à l'action, ce moment où tu te poses, tu te dis, ça, je vais le faire. Et je décide de le faire et je prends la responsabilité et je le fais en toute conscience, en fait. Et le fait de faire ça, je pense que c'est ça le passage, en fait, à l'âge adulte, finalement, quelque part. C'est là où on devient, on a tous un enfant en nous, mais c'est là où cet enfant, finalement, prend sa responsabilité d'adulte. C'est le fait de se dire, je fais un choix aujourd'hui et je décide telle chose.
Ouais. Ah, c'est chouette. Ben, c'est un beau message, notamment pour les personnes qui ont souvent besoin de changement, de diversité, etc. C'est souvent une grosse question, ça, le fait de faire un choix. Parce que souvent, choisir, c'est renoncer, mais finalement, choisir, c'est aussi prendre ses responsabilités.
C'est ça. Et en fait, choisir, effectivement, c'est renoncer. Mais le fait de renoncer, c'est important. Parce que sinon, on reste avec le fait de rester dans un non-choix, c'est très fatigant et c'est très épuisant. Et on n'avance pas. On reste dans un truc stagnant. Le fait de faire un choix, c'est forcément un bon choix. Parce que tu fais un choix, tu avances. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un bon choix, en vrai. Mais il faudra le faire, je pense qu'il faut nuancer, parce qu'il faudra le faire quand même avec un minimum de réflexion et d'intuition en avance et de travail. Effectivement, il ne faut pas te lancer dans n'importe quel choix non plus. Mais voilà, c'est le fait de le faire, c'est quelque chose qui te fait avancer, qui te fait grandir automatiquement. J'en suis persuadée aujourd'hui.
Ouais. Bon, bah, trop chouette. Merci. On va terminer sur ça alors.
Merci beaucoup Doris pour cette interview. Merci.
Un grand merci à Elena pour son partage et tous ses bons conseils. Vous pouvez retrouver Elena via son site internet elenadaskalaki.fr ou via ses réseaux sociaux que je vous mets en description de cet épisode. D'ailleurs, si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le dire et à le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous aussi, vous voulez prendre votre nouveau départ, mais que vous ne savez pas par quoi commencer, je vous invite à prendre directement rendez-vous avec moi sur mon site internet, projetemoi.fr. Allez, à très vite pour un nouvel épisode.